One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Pierre Bergougnot.
Et je suis Julien Gosselin.
Et tous deux, on peut dire que vous êtes des forgerons, des bâtisseurs de cathédrales ou peut-être des meurtriers.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
Des algorithmes contre la violence. Que ce soit pour endiguer la propagande djihadiste sur le net ou lutter contre le cyberharcèlement des adolescents, le projet Eclos, ça et là, d'utiliser les algorithmes pour repérer et neutraliser ces messages. Résultat d'un rapprochement des ONG ou associations engagées dans ces luttes avec des entreprises high-tech. Bref, un signe en apparence de ce qu'on pourrait appeler le progrès. Le problème, c'est que l'équation entre contenu violent et violence n'est pas si simple. Interrogé par le site Slate, John Horgan, professeur de psychologie qui a étudié les groupes terroristes, le souligne. Les djihadistes américains qui passent à l'acte ont souvent des disques durs sans images de propagande violente. La plupart des gens pensent que nous avons une bonne compréhension du rôle de certains contenus dans le processus de radicalisation, mais en fait, non, ça n'est pas le cas, dit-il. Une bonne compréhension, voilà ce qui manque. Et la sensation de barrière bloquante pourrait être contre-productive, laissant en jachère esprit critique et libre arbitre. Alors, en cette rentrée littéraire, continuons de forer les âmes violentes et violentées. Continuons de les sonder jusque dans leurs rêves et leurs cauchemars, comme le fait la romancière Natacha Apana dans La Poudrière de Mayotte. D'ailleurs, lorsque le roman commence, le drame s'est déjà produit. Marie, la mère adoptive de Moïse, le héros, lui avait dit « Tu as peut-être oublié, mais c'est dans l'inconscience, mon petit. L'inconscience n'oublie jamais. » Comme dans cette chanson qui lui revient.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
Tropique de la violence, hanté par l'aigle noir qui hante Barbara, c'est signé Natacha Apana et publié chez Gallimard. Julien Gosselin, vous proposez en ce moment aux spectateurs une expérience théâtrale de 11 heures. Adaptation, je l'ai dit, des 1353 pages de 2066, le chef-d'œuvre testamentaire de l'écrivain chilien Roberto Bolaño. C'est paru après sa mort en 2003. Dans ce spectacle, on explore des zones poétiques et esthétiques parfois violentes. Il y a, comme vous le dites, des parties longues, éprouvantes et difficiles. Cette exploration-là, ces explorations-là, en quoi elles sont plus nécessaires que jamais, Julien Gosselin?
Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a à la fois l'exploration de la violence et puis en même temps aussi la possibilité pour le spectateur ou en tout cas celui qui voit l'art ou qui en est le témoin, la tentative de l'art du moins, l'envie que j'ai aussi de le mettre parfois face à une forme de difficulté ou en tout cas essayer de le sortir d'une position pure de consumériste. Mais à la limite, même on pourrait dire que ces deux questions se rejoignent très fort parce que j'ai souvent, par exemple, beaucoup de problèmes avec un certain nombre de films où la violence, typiquement, est montrée de manière extrêmement ludique et récréative, où le spectateur est une sorte de consommateur absolument stupide de ce genre de choses. Je suis plutôt du côté, par exemple, pour parler de cinéma, d'un Michel Haneke, qui pose la violence à chaque fois comme une sorte d'extrémité, et qu'elle doit rester et qu'elle est, et qui, de fait, met le spectateur face à des expériences artistiques, cinématographiques complexes, riches, peut-être parfois un peu difficile, mais en même temps qui lui permettent de grandir, je crois, et de pouvoir penser la question de la violence et pas seulement en être un témoin amusé.
Pierre Bergougnot, pour penser cette question de la violence, peut-être plutôt que des algorithmes, il faudrait, puisque je vous comparais tous deux avec Julien Gosselin, à des bâtisseurs de cathédrales, puisqu'il y a au cœur de B17G, donc ce roman qui est réédité au mois d'octobre chez Argol, tout un équipage au cœur d'une cathédrale d'aluminium, qui est ce bombardier B17. Est-ce qu'il faut plutôt des cathédrales de papier, des cathédrales d'aluminium pour lutter contre les oiseaux bouchers, contre les oiseaux noirs?
C'est peut-être un complément. Il faut agir politiquement dans la sphère politique. Mais je pense que la littérature, si elle n'est pas tout à fait inégale à sa vocation, ou à son destin peut contribuer à éclairer les hommes que nous sommes et les aider à agir mieux ou simplement moins mal. Elle n'est pas simplement, enfin, à mes yeux du moins, un divertissement, l'occasion de passer un après-midi ou une soirée tranquille, mais une façon d'éclairer ce qu'il y a d'essentiellement obscur, mystérieux, douloureux, tragique, terrible dans nos vies.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Un desierto muy grande. Una ciudad muy grande. En el norte del estado. Niñas asesinadas. Mujeres asesinadas. ¿Qué ciudades? Quiero saber cómo se llama esa ciudad del demonio. Lo tengo en la punta de la lengua.
Vous êtes dans la langue de Roberto Bolaño, dans le roman 2666, et vous êtes aussi, avec cet élément sonore, dans la boîte noire des ateliers Berthier, cette extension du théâtre de l'Odéon, qui vous propose de faire l'expérience jusqu'au 16 octobre de la mise en scène de 2666 par Julien Gosselin et ses comédiennes et ses comédiens. On entendait la voix de l'une d'elles en espagnol qui, à l'orée du spectacle, nous donne à entendre, incarne une voyante. Une voyante qui aperçoit un cimetière de femmes dans une ville du Mexique. Un ami qui a lu 2666 et qui n'a pas encore vu votre spectacle, Julien Gosselin, le jeune romancier Aram Kebabjian, me disait, mais il a tout compris, Julien Gosselin, d'avoir choisi ce passage avec la voyante et de le proposer aux spectateurs d'emblée parce que Bolaño est un voyant au sens rimbaldien par l'ampleur de son ambition littéraire et la précision du détail. Mais alors vous, vous vous êtes muet aussi en voyant, en choisissant de mettre en scène cela. Vous avez eu des visions, vous avez eu des flashs stroboscopiques à propos de Bolaño pour décider de le mettre en scène de la façon que vous avez de le faire.
Non. C'est vrai, je suis toujours justement typiquement sur la position du metteur en scène. C'est une grande question que je me pose en ce moment sur typiquement cet après-midi, je lisais le texte de Pierre Bergugno et je me disais bon, c'est quand même pas du tout le même métier. Et j'étais au restaurant ce midi et je voyais le chef préparer à manger. Je me disais c'est quand même beaucoup plus proche de ce que je fais. Je veux dire, il y a quelque chose. Je suis pas le voyant. Je suis quelqu'un qui avec le génie de quelqu'un d'autre fait quelque chose qui doit être à peu près, en tout cas, qui doit essayer de viser le niveau de ce quelqu'un d'autre.
Et vous êtes le voyeur, c'est des affaires de vision quand même?
C'est des affaires de vision, oui, on peut dire ça. En tout cas, quand je lis, quand je découvre une œuvre, généralement, il faut que j'ai deux ou trois éléments qui, à un moment, provoquent en moi une vision qui peut être une sorte de sensation complètement lié à la nature, lié à une émotion pure presque, qui est complètement sortie du monde du théâtre. Ça, c'est, on va dire, une sensation de lecteur extrêmement intime. Et puis, à la fois aussi des sensations qui sont la possibilité d'une transposition théâtrale. Vous savez, je pense pas que tous les metteurs en scène soient bons avec tous les textes. Et je veux dire, on choisit pas un texte nécessairement parce qu'on est bon pour le faire. On choisit un texte parce qu'on sent qu'à un moment, ça peut vous déplacer à un endroit qui peut être juste dans votre pratique artistique. De fait, avec Bolaño, j'ai eu deux ou trois images. Il se trouve d'ailleurs que ces images, c'est des images purement théâtrales. Comment je peux le faire ensuite? Mais généralement, ce qui est assez amusant, c'est que ces images-là, dès qu'on les essaye pratiquement au plateau, sont complètement détruites immédiatement par la pratique théâtrale. Et finalement, c'est, on fait l'inverse de ce qu'on a imaginé. Mais en tout cas, il faut ces deux ou trois. Comme moi, il me faut ces deux ou trois images-là très fortes pour arriver à un moment à me projeter dans un travail qui, de fait, en plus, dure deux ans ou trois ans. Donc, c'est, voilà, très long.
Justement, il y a 7 ans, vous aviez fondé donc la compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur », que vous avez donc toujours avec laquelle vous présentez ce 2666. « Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné », une phrase empruntée à Choix de Claude Lanzmann. Alors, comment, en léchant le cœur de 2066 de Roberto Bolaño, vous avez été empoisonné, Julien Gosselin ?
C'est vraiment plusieurs choses. Bon, d'abord, quand même, il y a le fait de tomber un moment sur une écriture contemporaine. Vous savez, moi, je me refuse à monter des œuvres classiques pour un milliard de raisons qui seraient longues à expliquer. Peut-être une des plus importantes pour moi étant le fait que tout n'est pas dans tout. C'est ce que je crois en tout cas, et que la phrase qui dit que tout est dans Shakespeare, elle me semble complètement fausse. Je pense qu'une grande partie des choses sont dans Shakespeare, mais enfin, qu'il y a certaines choses qui n'y sont pas. Quand je travaillais sur Michel Houellebecq, là, j'ai donné un exemple qui n'est pas un exemple poétique, mais qui est un exemple purement thématique. Mais à un moment, la question la question de la misère sexuelle, pour le coup, est une question qui est plutôt absente de l'œuvre de Shakespeare. Ou en tout cas, elle est traitée d'une manière complètement différente. Bon, là, c'est vraiment l'aspect thématique. On pourrait parler de l'aspect poétique aussi. Mais en tout cas, donc, je m'attaque à des œuvres contemporaines. Et quand je tombe à un moment sur une écriture qui a cette grandeur-là, cette puissance-là, de toute façon, forcément, il y a quelque chose en moi qui s'éclaire très très fort, et ça arrive suffisamment rarement pour être noté. La deuxième chose, c'est vraiment, pour le coup, à un moment, deux ou trois éléments qui sont dans le style de l'auteur, mais qui sont aussi dans ce qu'il raconte. Vous parliez de cette question de la violence qui envahit toute l'œuvre, forcément. La question aussi des racines du mal, des racines de cette violence. D'ailleurs, il serait presque plus juste à cet endroit-là de dire les racines du mal plutôt que les racines de la violence, parce que il y a tellement à un moment une sorte de... Pour ne pas citer Dantec, mais en tout cas, il y a une décantation presque poétique à un moment de cette question de la violence qui serait presque... La violence serait le mot pratique pour exprimer le mal, qui serait une sorte de vision plus gigantesque. Et en tout cas, voilà.
2666, c'est pas par hasard.
C'est ça, 666. Donc, le chiffre du diable est 2000, finalement, comme si le 21e siècle serait le grand cimetière, le cimetière gigantesque des horreurs dont il porte l'héritage. Et puis ensuite, il y a deux ou trois éléments comme ça à l'intérieur du texte. Je pense notamment, par exemple, à la quatrième partie du texte qui s'appelle la partie des crimes et qui décrit, à peu près, je crois, 150 cadavres retrouvés de femmes, et où à un moment, je vois en ça le courage pur d'un auteur, à un moment une tentative littéraire qui est comme ça énorme, et je me dis comment trouver la transposition théâtrale adaptée à cette chose-là, et quelque chose me saisit complètement.
À propos, Pierre Bergougnou, du poison qu'il y a peut-être dans le théâtre de Julien Gosselin et qui sait dans la littérature, on pense aussi à Freud traversant l'Atlantique et disant « je leur apporte la peste ». Est-ce que la littérature pour vous, et singulièrement peut-être dans ce roman B17G, c'est comme Smith, ce servant de mitrailleuse que vous nous donnez à rencontrer, donc qui travaille au cœur de l'avion? Est-ce que la littérature, c'est convoyer du trinitrotoluène, de l'explosif, ou au contraire, ça serait apporter le feu prométhéen du forgeron?
Les deux. Rien n'a contribué à clarifier nos vies comme ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire littéralement l'expression appuyée sur la lettre, avec un support, le papier, et quelque chose qui laisse la trace de notre pensée, mais hors de nous, telle que soudain nous fait face, et que nous découvrons les imperfections dont elle était grevée, aussi longtemps qu'elle restait prisonnière de la nuit intérieure, de la pénombre intérieure. Et en même temps, la littérature a versé une contribution tout à fait significative au cours des choses. Bon, on est en France. Je pense que le monde n'a plus été le même à compter de l'instant où un jeune homme qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau a donné à la presse un certain nombre d'écrits, dont le premier portait, par exemple, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. À quoi a fait suite un texte qui appelait le contrat social? Nous savons que les tout jeunes hommes qui ont fait la Révolution, qui avaient entre 25 et 35 ans, avaient lu avec transport, avec larmes, les proses du Citoyen de Genève. La littérature, c'est ça. Ou alors elle ne vaut pas une heure de peine.
Mais c'est aussi des ténèbres.
Sans doute.
Répandues.
Mais bien sûr. Mais les ténèbres, en tant que. Elles sont objectivées, dites, explicitées, et que nous prenons vis-à-vis d'elles cette distance qui naît proprement de la magie des signes. Ça n'est plus la chose, c'est son signe. Et alors, à ce prix-là, nous pouvons peut-être nous déprendre du ténébreux empire que la chose exerçait sur nos cœurs et sur nos esprits.
Boris Helsine, c'est une vidéo du spectacle de Julien Gosselin, aussi étonnant que cela puisse paraître, sans vouloir révéler l'instant justement. Il nous dit que le monde est régi entre l'offre, la demande et ce troisième pied sans lequel la table ne serait pas stable, qu'est la magie, la brume dionysiaque, le jeu, le sexe. Justement, comment est-ce que vous avez soufflé cette magie, celle qui a été la vôtre à la lecture de Bolaño, et celle aussi qui est essentielle sur la scène pour nous faire vivre aussi ces 11 heures d'expérience.
D'abord, ce qui est amusant, c'est que vous savez, Bolaño, il est assez critique sur ce qu'on considère comme le roman latino-américain de manière générale. On va dire le cliché habituel qu'on en a, on va dire partant du réalisme magique, c'est-à-dire que il utilise parfois des figures comme ça, cette présence de la magie, on va dire, à l'intérieur du monde réel, et en même temps, plus il l'utilise, plus il s'en moque, plus il en rit. Donc voilà, ça arrive régulièrement. Je pense que c'est aussi pour ça que dans le rêve du professeur de philosophie du livre qui s'appelle Amalfitano apparaît Boris Helsine qui tient ces paroles-là, parce que là vraiment on est on est écarté complètement.
Bolaño qui dit « La poésie, le seul domaine avec celui de la douleur où il est encore possible de se perdre », c'est ce qu'il a dit dans un entretien. Il y a aussi ce personnage d'écrivain, Von Archibaldi, qui dit finalement « Moi, je suis passé au roman parce que je peux tout prendre dedans. Je peux prendre aussi la poésie. » Est-ce que, Julien Gosselin, cette pièce, c'est pas une pièce sur la littérature au carré? C'est-à-dire, vous, lisant Bolaño, et sur scène, représentant encore ce qu'est pour vous la littérature et ce qu'elle pose sur la table et ce qu'il y a en jeu.
Mais c'est tout à fait ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si j'essaye de le faire, d'ailleurs. C'est quelque chose qui se fait. Enfin, j'espère que ça se fait. Il y a quelque chose... Vous savez, il y a une phrase dans la pièce qui est... on parle d'un roman d'Archimboldi et c'est son autobiographie. Et dans son autobiographie...
Donc un romancier fictif hein, qui absolument. Est au cœur d'une enquête de la part d'un certain nombre de personnages.
Absolument. Et on parle de son autobiographie qui a pour titre « Le roi de la jungle ». Et à la fin de son autobiographie, après la disparition du père, de la mère, du fils, après la disparition de tous les gens qui l'entourent, Bolaño dit « Il ne restait que la nature ». Et ce qui est étonnant, c'est que quand on fait du théâtre, au fond, moi j'utilise énormément, on va dire, d'outils, la vidéo, le son, la lumière, le décor, toutes ces choses-là. Et au fond, à la fin, j'essaye de faire qu'il ne reste que la littérature. Et c'est ce qui est fou, c'est que sur une scène de théâtre, je vous dis ça parce que presque la littérature, presque dans son acception la plus nue, la plus pure, serait une forme d'équivalence de ce que la nature peut être à l'intérieur d'une œuvre littéraire elle-même. Donc vous parliez de haut carré, il y a quelque chose comme ça, je crois.
Julien Gosselin, à l'instant, Mathilde employait le mot de magie qu'on retrouve donc dans votre spectacle 2666. Il y a la magie, puis il y a aussi le trucage. Il y a cette phrase, une photo truquée. Mais pas truqué. Est-ce que vous, votre spectacle, qui aussi fait d'escamotage avec tout ce travail sur la scénographie, dont j'aimerais bien que vous nous disiez un mot, c'est une photo truquée, mais pas truquée, de ce livre.
Ah oui, c'est difficile de vous répondre. C'est drôle parce que Bolaño fait beaucoup de choses comme ça qui sont que j'ai toujours du mal à complètement expliquer des choses de style comme ça. Voilà, comme une photographie qui est truquée mais qui n'est pas truquée, dit-il. Comment expliquer ça à moins de le voir et d'en avoir une vision pure, c'est quasiment impossible. Après, sur la manière, disons, dont je travaille, effectivement, il y a un décor assez ample. On a trois énormes blocs de bois, de métal et de verre qui se déplacent sur le plateau. Il y a un usage de la vidéo qui est, je crois, assez excessif. Il y a deux parties qui sont quasiment intégralement filmées. Un usage de la musique qui est très excessif aussi.
Filmé en direct, hein,
rapidement. Tout filmé en direct.
La musique aussi. En direct.
La musique est faite en live aussi, tout est fait en direct, et ces choses-là, à un moment, disons, Je crois que le théâtre, enfin en tout cas moi, le théâtre que j'ai envie de faire ne fonctionne pas non plus comme un menu, mais j'ai la sensation, si vous voulez, pour, je vous donne un exemple très précis. Quand je suis chez moi et que je lis et qu'il y a une certaine lumière dehors ou à l'intérieur de mon salon et qu'il y a un son ou une musique, plusieurs dimensions comme ça se rejoignent, le temps de la lecture, la lumière, le son, quelque chose se passe. Et ça arrive à tout le monde. Quelque chose, une émotion, un moment s'installe, se crée. Moi, j'essaye d'ouvrir chez le spectateur ce champ-là. J'essaye de lui proposer, parfois de lui imposer, quelque chose qui serait une succession de couches qui, à un moment, permettent à la littérature de ne plus être simplement un moment de lecture, mais quelque chose qui ouvre sur une émotion qui contamine la pièce, qui contamine l'espace. J'essaye de faire ça.
Pierre Bergougnoux, cette idée de la littérature, sinon du théâtre, comme une photo truquée mais pas truquée, ça résonne aussi en vous qui partez pour ce roman B17G d'images d'archives.
Oui, le propre des livres...
Vous manipulez.
Plus ou moins. Mais le propre des livres est d'ouvrir des univers parallèles à celui que, par convention, nous appelons la réalité. On est ailleurs. Nous avons, comme, j'emploie un bien grand mot, comme bipède pensif, cette aptitude prodigieuse à dissocier notre situation, mettons un studio de Radio France, et nos représentations. Il peut se passer quelque chose là, dans l'espace réel, mais si véritablement un livre nous touche, nous atteint, nous sommes très loin. Et il n'y a que nous. Nous sommes seuls, semble-t-il, à disposer de cette aptitude. Et les livres lui impriment une force sans égale. Le cinéma est trop précis à mes yeux. Le livre permet malgré tout qu'on engage dans l'affaire quelque chose de nous, de nos secrets, de nos plus intimes penchants. C'est une expérience irremplaçable.
Il y a une insularité, une rupture qui me semble caractériser la totalité des livres d'Archimboldi au regard de la tradition allemande, mais pas au regard d'une certaine tradition européenne.
Il y a un mystère qui voile la silhouette d'Archimboldi dont pratiquement personne, pas même son éditeur, ne sait rien. Ses livres paraissent sans photo en quatrième de couverture.
Ses données biographiques sont minimes. Écrivain allemand, né en Prusse en 1920.
Son lieu de résidence est un mystère, bien qu'en une certaine occasion, son éditeur ait dérapé et reconnu devant une journaliste du Spiegel avoir reçu l'un des manuscrits de Sicile.
Aucun de ses collègues encore en vie ne l'a jamais vu.
Il n'existe aucune biographie sur lui en allemand, même si la vente de ses livres progresse en ligne ascendante aussi bien en Allemagne que dans le reste de l'Europe, et également aux États-Unis, lesquels ont un faible pour les écrivains disparus. Disparus et millionnaires, ou pour la légende des écrivains disparus.
Lise me manque.
Vous êtes dans 2066, vous êtes au Théâtre de l'Odéon, version boulevard Berthier dans le 17e arrondissement. Cette expérience donc qui continue encore en ce moment à Paris et qui a été créée au départ à Valenciennes, puis testée à Avignon, Julien Gosselin. Est-ce que, si je reviens déjà pour nos auditeurs sur la structure, on a la partie des critiques dont on a entendu un extrait, la partie d'Amalfitano qui est un professeur de philosophie, la partie de Fateh qui est un journaliste, la partie des crimes et la partie d'Archimboldi qui est donc cet écrivain sur lequel est menée une enquête. Ça ressemble au départ presque à un Donatarte, le maître des illusions avec ses étudiants érudits, presque en quête de bacchanal. Mais surtout, quand je disais que c'était un spectacle qui nous parle de littérature, au-delà de ce centre de ténèbres qu'est Santa Teresa, qui est Ciudad Juarez dans la vraie vie, dans l'inspiration de l'écrivain Bolaño. Au-delà donc de cette rupture et de tout cela, quand ça parle de littérature, j'ai l'impression que ce sont aussi les mots de Bolaño sur ce qu'il veut de la littérature, ce qu'il attend d'elle, ce qu'il aimerait pouvoir faire pour elle. Quand par exemple, l'un des personnages dit que c'est dommage que les gens aiment un cœur simple de Flaubert et pas Bouvard et Pécuchet, qu'il faut aimer l'écrivain dans le combat pour la grande œuvre, même s'il y laisse du sang. Ou comme le disait Michel Léris, la littérature comme une tauromachie. Est-ce que c'est ce combat littéraire qui vous a plu, cet engagement-là?
Il y a quelque chose, alors évidemment chez Bolaño, je pense que ça s'apparente autant à quelque chose qui pense profondément qu'à une pure provocation, de pour le coup de parler des œuvres mineures et des œuvres majeures comme il le fait, parce que en plus, voilà, Un cœur simple ou Bouvard et Pécuchet, est-ce comparable, est-ce qu'on peut véritablement considérer l'un comme une œuvre mineure et l'un comme une œuvre majeure, ça se discute, on pourra en discuter très longtemps, je suppose, mais tout de même, il y a quelque chose que je trouve complètement passionnant là-dedans. Il compare. À un moment, il dit que ceux qui s'intéressent aux œuvres mineures s'intéressent aux exercices parfaits, aux exercices d'escrime des grands maîtres, et que d'autres cherchent les œuvres torrentielles et imparfaites. Et je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse, qui me bouleverse, qui m'intéresse, c'est peu dire, chez Bolaño, c'est que la question de l'imperfection est lié à la question du courage. La question, à un moment, de la recherche littéraire, à un moment, quand elle est menée presque à son but, gagne en imperfection et non pas en perfection. Quelque chose, à un moment, qui... Une forme de... le plus grand style peut faire émerger la plus grande brutalité, ou quelque chose comme ça. Et je sais que... C'est continu dans le roman, la question de la grande œuvre, la question de la forêt d'œuvres mineures qui cachent l'œuvre majeure. Et je trouve ça... c'est forcément bouleversant.
Pierre Bergougnoux, il y a une ambition torrentielle et sans doute des imperfections dans le spectacle de Julien Gosselin, 2666, avec, on le disait, donc cette longueur, 11 heures de spectacle qui est proposée aux spectatrices, aux spectateurs, avec un travail sur la saturation des sensations, la saturation par le son, par la lumière, par la puissance du texte, la violence, la peur et même la terreur. La question de ce qui terrifie est aussi au cœur de ce spectacle. Est-ce que tous ces moyens, la peur, la violence, la saturation, pour arriver à cette ambition torrentielle et imparfaite, sont aussi des outils, des armes qui sont les vôtres?
Non, mais parce que Julien Gosselin est de son temps, il est d'aujourd'hui, il vient de naître, ou peu s'en fout, et que je suis, par le fait...
Il vient de naître au théâtre aussi, entre autres.
Aussi, et que je suis un monsieur d'un certain âge, et que je suis prisonnier du temps, déjà lointain. Qui a été le mien en tant que fondateur, en tant qu'il m'a procuré les ressources dont je disposerai pour aller à la rencontre des difficultés, des énigmes que chaque époque oppose ou propose à ses petits habitants. Donc,
Julien Gosselin. C'est d'ailleurs dans B17, hein, B17G, il faut avoir la force physique, il faut avoir 20 ans pour un certain nombre de choses.
Tout à fait, il faut avoir 20 ans et Julien Gosselin les a encore, toujours et peut-être à jamais.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission imparfaite qui espère le faire avec courage. À suivre, le petit livre occulte de Pierre Bergougnoux, B17G, lu entre autres par le metteur en scène Julien Gosselin, assoiffé.
Ping Pong, la culture sans limite.
Le disque du jour, dégoté par Thomas Beau, fief et pongiste et programmateur musical de cette émission, est l'œuvre d'un groupe au nom à coucher dehors comme un narcos, Gonja Soufi. Mais si nous vous allons faire partager ce soir cette musique, c'est pour d'autres raisons. Petit A, parce qu'en cette chaude soirée où la littérature est notre fil d'Ariane, nous sommes sensibles aux promesses d'un morceau au titre moins pongiste que pongien. Le morceau est nommé Vinaigrette. Petit B, parce que le son saturé et flou des guitares, celle du curiste Pearl Thompson, la basse hypnotique et les voix filtrées de cette vinaigrette nous stupéfient comme des produits de synthèse ou plutôt comme une remontée de trip à l'acide datant des 70s passé dans le mixeur électronique d'un bel aujourd'hui tout enténébré. Et petit C, parce qu'à l'écouter, on se croirait presque de retour sur la route de Santa Teresa dans le désert du Sonora, tel que décrit par Bolaño, mise en musique par Guillaume Bachelet et Pierre-Alexandre pour le spectacle 2006.
Rémi Alexandre
pour le spectacle 2666. Ce désert où la nuit vous tombe dessus tout à coup comme un piano à queue dans un épisode de Bip Bip et le Coyote. Vinaigrette. Summer.
day when let's run away. Making love to a safe way. She had crossed the path in innocence.
So many bodies she crossed and she wasn't finished yet.
So many bodies she crossed and she hasn't finished yet.
Vinaigrette, extrait de l'album Callous de Gonja Soufi, paru sous le label Rap Records.
La Seconde Guerre mondiale agit comme une bascule de la modernité chez Bolaño, dans la mise en scène de Julien Gosselin, mais aussi dans le B17G de Pierre Bergugnot. Attendez, écoutez un peu voir.
Ping-pong.
Ce n'est pas à riposter comme au cinéma, comme y songent les gosses, que j'ai pensé lorsque j'ai revu la forteresse volante. C'est aux gosses qui se trouvaient à bord. Ils furent les protagonistes d'une mutation sans exemple ni précédent de la civilisation matérielle et morale, et payèrent de leur vie ce privilège exorbitant. Un B-17 emporte 10 hommes, un pilote, un copilote assis côte à côte dans la cabine. Dans leur dos, un mécanicien sert en cas de nécessité la tourelle dorsale et vérifie par-dessus leur épaule les jauges et les pressions. Devant et en contrebas, le navigateur assis à une table qui éclaire une petite coupole et deux hublots surveille le compas magnétique à gyroscope, le radar et le radiocompas. Ils disposent de deux mitrailleuses installées chacune dans des saillies latérales vitrées. Le bombardier est penché sur le vide à l'avant, dans le nez en plexiglas, et commande à distance la tourelle de menton. Dans la partie arrière, passée la soute à bombe située entre les ailes, on trouve d'abord l'opérateur radio, puis, enfermé dans la sphère rotative, accroché au ventre de l'appareil, la tourelle Sperry, un homme de petite taille. Au-delà, deux mitrailleurs de sabord défendent les flancs de l'appareil. Un solitaire, dans la queue, couvre l'arrière. Cette communauté emprunte au travail en usine ses solidarités matérielles. À la famille, l'unité organique qu'elle tire du sang. Celui en l'occurrence que tous ils verseront si la machine qu'ils servent ensemble est abattue. À l'internat des lycées ou des grandes écoles, enfin, l'exubérance restée de l'enfance jusque sur les parvis de la vie sérieuse, lorsque parler... Agir porte ta conséquence et que la conscience, pour imparfaite qu'elle demeure, accompagne désormais chaque instant.
Extrait de B-17G de Pierre Bergugnot qui reparaît ces jours-ci. La postface est signée Pierre Michon. Vous partez d'images qui sont filmés par les nazis, qui vont descendre cet avion.
Oui.
Vous dites finalement qu'il faut rentrer
dans cette espèce de structure volante, qu'il faut, comme vous venez de le faire, commencer à savoir qui est à l'intérieur, plutôt que de se contenter de ces corps explosés, déchiquetés, qui durent que 20 secondes, ou comme le dit Pierre Michon dans la postface, finalement, ces images, elles tuent aussi. Elles sont aussi mitrailleuses à leur tour, en ne montrant que ça. Pourquoi est-ce que justement vous avez décidé, voilà, de rentrer dans l'image, de changer le point de vue ?
Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que aucun de ceux qui sont partis bombarder l'Allemagne nazie n'a laissé de témoignage précis de cette aventure extraordinaire. La plupart ont été tués ou n'avaient pas cette capacité qui s'apprend, se cultive, de restituer exactement cette expérience dont ils avaient été les agents, les protagonistes. La deuxième chose, c'est qu'à peu de temps de là, à la fin des années 20 aux États-Unis d'Amérique, un jeune ressortissant du Mississippi nous a charitablement fait comprendre que la littérature, depuis le commencement jusqu'aux années 1930 du siècle dernier, était non pas la transcription d'une certaine vérité de l'expérience, que, j'emploie un terme un peu bizarre, ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire quelque chose qui résulte de l'interférence entre le phénomène observé et les moyens mis en œuvre pour l'observation. De sorte que, l'écrivain américain, c'est William Faulkner, sa formule qui est extrêmement brutale, c'est pas ça. Il lit un livre, lequel lui tombe des mains, c'est pas ça. Pour les habitants des pays développés, pour les Français que nous sommes, la littérature, depuis à peu près un demi-millénaire, accompagne, escorte, éclaire notre histoire. La France, c'est un titre d'un livre de Pierre Le Pape qui a dû paraître, je crois, en 2003. La France est le pays de la littérature au nombre des besoins que nous avons, celui de disposer de ce commentaire précis, approché, parfois éclatant, resplendissant de la vie. Je suis français, c'est un besoin que j'ai. J'ai lu Faulkner lorsque ce fut le moment, et revoyant un jour ce film de combat tourné par la cinémitrailleuse d'un avion de chasse allemand, je me suis dit, voilà, on n'a pas trace véritablement de ce qui s'est passé dans le ciel de l'Allemagne. Ceux qui ont vécu ces terribles moments étaient extrêmement jeunes, des gamins comme Julien Gosselin, voilà. Ils n'ont pas eu le temps, c'est une formule dont se servait, je crois, Saint-Simon, de se reconnaître. Ils sont morts dans la fleur de l'âge, engagés qu'ils étaient dans la lutte contre la chose la plus horrible qu'on ait jamais vue sur la Terre, et qui est le nazisme. Donc, je me suis dit, voilà, c'est une expérience que j'ai faite indirectement en découvrant cette image qui montre leur destruction à 24 000 pieds d'altitude, dans des conditions apocalyptiques où se déroulaient ces vols de bombardement. Je peux essayer. Je n'étais pas très sûr de mon fait lorsque j'ai tendu une main qui tremblait légèrement vers le crayon et porté celui-ci sur le papier. Je peux m'efforcer en tenant compte d'un certain nombre de leçons que je tire du passé, ce que Faulkner nous avait appris, ce que j'avais moi-même découvert en voyant ces films de combat. Je peux essayer de combler cette espèce de lacune qu'il y a dans la bibliothèque. Une des expériences majeures du milieu du siècle dernier n'avait pas trouvé cette version écrite, approchée, dont non seulement nous sommes peut-être capables, mais dont nous considérons qu'elle est partie intégrante de notre expérience. Notre expérience n'est pas véritablement achevée, complète, si elle n'est pas doublée de ce commentaire approché, de cette expression précise que désormais nous exigeons d'elle.
Pierre Bergougnou, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'avec B-17G, vous faites partie du combat, il y a le combat aérien, donc entre cet avion allemand nazi qui mitraille et qui filme en même temps le B-17 de l'armée américaine, mais il y a aussi, semble-t-il, et non sans humour, votre combat contre les plus grands écrivains. Vous venez d'évoquer Faulkner, il semble que vous souhaitiez être plus fort que Faulkner, parce que vous le prouvez dans la description minutieuse, technique de cet avion. Vous savez distinguer l'avant de l'arrière de cette forteresse volante, ce que ne savait pas Faulkner, apprend-on au détour d'une de vos phrases. Vous êtes plus fort même que Proust et Kafka, tous deux de constitution fragile, qui ne pouvaient pas piloter.
Quiconque se hasarde à écrire ne peut pas instantanément voir faisant cercle autour de lui ces hommes éclatants, insurpassables, qui ont témoigné d'âge en âge de l'aventure de l'espèce pensive. Quiconque écrit ne saurait le faire sans se sentir soit gagné par une très grande envie de pleurer, soit en abandonnant la plume. À quoi bon ? Il s'est trouvé des hommes pour parvenir à un tel degré d'exactitude, un tel rayonnement, qu'il semblerait qu'ils éclipsent toutes les tentatives ultérieures qui pourraient être hasardées.
Mais là, vous ne pleurez pas et vous n'abandonnez pas, vous leur tirez dessus.
Intérieurement,
vous
j'ai
les
peur.
Griffez, en tout cas.
Je vais citer Julien Gosselin. Mais si, il faut recueillir ce que les nouveaux arrivants ont à nous dire sur ce qu'ils ont découvert. J'étais heureux d'entendre le petit Gosselin dire que tout n'était pas dans Shakespeare. Shakespeare est sans doute le plus grand écrivain qui ait jamais existé. Il n'en demeure pas moins que Mianche arrive et déclare que...
Eh ben, les Bergougnoux s'en réjouit.
Il faut s'inquiéter de ce que Bolaño a pu écrire dans les années 2000, juste avant de nous quitter prématurément. Notre expérience est nouvelle d'âge en âge. Et quelque écrasant que puissent être les exemples que nous avons sous les yeux et que nous ne pouvons pas ne pas connaître, il faut s'efforcer d'être simplement les contemporains de cette heure, entre toutes les heures qui nous est échue. Et nul autre.
Le petit Gosselin, qui présente donc son adaptation de 2066 de Roberto Bolaño, c'est jusqu'au 16 octobre au théâtre de l'Odéon, puis après ce sera en tournée, donc vous pourrez faire cette expérience théâtrale. Justement, j'aimerais savoir quel est votre regard sur peut-être le pont qu'il y a à faire entre le livre de Pierre Bergoglio et le livre de Roberto Bolaño, c'est-à-dire qu'on a ces gens donc nés en 1925, le portrait de ces hommes déchiquetés en quelques secondes, qui sont, on va dire, les victimes et les témoins de la bascule dans le nouveau siècle, dans la nouvelle civilisation, dans la modernité qui est celle qui court encore aujourd'hui. Donc justement, est-ce qu'ils n'ont pas un lien avec ce Von Archibaldi, qui est l'écrivain qui est au cœur du 2066 de Roberto Bolaño, qui est au cœur de cette enquête et qui lui aussi va vivre la guerre et ensuite écrire ?
C'est possible et en même temps, me semble-t-il, ce dont parle Pierre Bergoglio dans le livre... Et il parle de gens qui eux-mêmes ne peuvent pas raconter pour un milliard de raisons, on vient d'en parler, mais de fait qu'ils ne racontent pas. Là, Bolaño lui parle d'un écrivain qui va raconter. Et Bolaño est lui-même cet écrivain qui raconte celui qui va raconter. Donc oui, forcément, je fais des ponts, mais en même temps, c'est presque deux histoires de fait n'ont rien à voir, sont inverses, presque inversées.
En miroir.
Allez, disons ça. Vous le dites, Pierre Bergoglio, ce n'est pas B17G, ce n'est pas le livre de votre vie, mais bien le livre, un récit pour les fantômes qui n'ont pas pu écrire leur vie. Donc on est là, en effet, dans un distinguo. Mais puisqu'on parlait de l'ambition, sinon torrentielle, du moins un peu démesurée, de Pierre Bergoglio qui s'affronte à Faulkner, qui s'affronte à Proust et Kafka avec son avion, avec son bombardier B17G, vous, Julien Gosselin, donc dans ce spectacle 2666, donc programmé dans le cadre du Festival d'automne, est-ce que vous cherchez pas, avec ce théâtre qui est aussi musical, on l'a dit, et qui est aussi du cinéma, du film, du tournage en direct, à vous faire plus fort, plus grand que le cinéma, justement, qui est trop précis et qui manque d'imperfection, comme disait Pierre Bergoglio? Vous lui faites la peau?
Non. J'ai plutôt tendance à avoir envie de faire la peau au théâtre que faire la peau au cinéma. J'ai vraiment pas l'impression. Disons que c'est très difficile à répondre pour moi parce qu'en
même spectateur, temps... en tout cas, on a vraiment envie de saluer le travail, notamment des caméramen qui font un travail incroyable en direct pendant tout le spectacle.
Oui, mais c'est une possibilité du théâtre, si vous voulez. Je vois pas ça comme une sorte de. D'abord, je vois pas ça, mais ça, on le sait maintenant depuis une vingtaine d'années comme un signe d'une profonde modernité. On sait que la vidéo est utilisée au théâtre depuis longtemps. Le cinéma est utilisé au théâtre parce que le cinéma c'est quand même mieux que vidéo, disons pour le travail qu'on fait là, en tout cas.
notamment dans la deuxième partie qui est très stylisée.
Absolument, absolument. C'est simplement des outils de récit, des outils de narration. À un moment, certaines choses me sont plus difficiles à exprimer avec un théâtre qui serait uniquement un théâtre d'acteurs et un théâtre où l'acteur serait au centre. J'ai tendance à toujours placer la littérature au centre du théâtre que j'essaye de faire, et en même temps, je crois pas que cette littérature existe uniquement par le prisme des acteurs. Je crois que la littérature, dans le théâtre que j'essaye de faire, elle existe tout autant à l'intérieur de la musique, même en son absence de la littérature, je sais pas comment le dire mieux, elle existe à l'intérieur de l'image, ou elle existe même dans la possibilité que le spectateur a de lire régulièrement du texte. Je pense pas que l'acteur soit le seul, vous savez, le mot passeur est souvent utilisé au théâtre, je pense pas que l'acteur soit le seul passeur de la littérature dans le théâtre.
Alors, ce qui est intéressant, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer, c'est que par rapport à ces pages qui peuvent être extrêmement violentes de Roberto Bolaño, notamment dans la partie des crimes qui concerne donc les meurtres à Santa Teresa, qui est Ciudad Juárez dans son inspiration, vous décidez finalement de nous exempter de scènes. C'est par les mots, finalement, qu'on y vient le plus, on va dire.
Bah oui, mais c'est exactement... Moi, je vais citer le jeune Pierre Bergoglio. c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'expérience intime de la littérature, à un moment, je sais pas s'il le disait comme ça, disons l'interprétation que j'en ai,
c'est une légende maintenant, faut y aller,
et un peu supérieure à quand même un certain nombre d'expériences qu'on peut vivre dans d'autres arts, parce qu'elle est l'expérience d'une intimité, à un moment aussi la possibilité d'une disons le mot imagination, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, à un moment quand je devais rendre la plus grande des violences à l'intérieur du texte, il fallait que ce soit une violence qui se passe de représentation, il fallait que ce soit une violence qui soit rendue intime pour le spectateur, et quoi de plus violent à un moment que la possibilité de lire ces choses-là. Ça semblait, si vous voulez, c'était le point culminant, à un moment le dépassement de l'image était obligatoire pour moi pour arriver à rendre compte de cette violence-là.
Alors, quand Pierre Bergoglio parle des routes immatérielles de la littérature, moi, en préparant cette émission, j'avais l'intention de leur opposer les routes matérielles incarnées du théâtre. Mais d'après ce que vous nous dites, Julien Gosselin, on est aussi sur des routes immatérielles dans votre théâtre.
Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Mais en même temps, on peut penser quand même que la littérature est faite d'énormément de matériel et de matérialité, quoi. Que j'imagine qu'elle se fait pas avec simplement
l'inspiration. On n'échappe pas à la réalité, dites-vous, Pierre Bergoglio.
Dans la façon que j'ai de faire du théâtre, j'essaye à chaque fois de mettre une grande quantité de matérialité, ou en tout cas de, appelons ça, de technique, de savoir-faire, de travail, pour un moment arriver à créer ce qui pourrait s'apparenter à de la poésie. Je pense pas qu'on puisse commencer le théâtre en faisant de la poésie et en finissant par le roman. Je pense qu'il faut commencer par le travail du roman pour un moment en arriver à la poésie. Voilà.
Vous dites, Julien Gosselin, que la littérature, donc, elle se matérialise ailleurs que dans le texte, dans le jeu des acteurs, dans ces outils de matérialité, dans aussi cette espèce de cerveau au-dessus, qui est celui des spectateurs qui sont en dialogue avec ce que vous leur proposez sur scène. C'est comme ça qu'Ossian parle du cerveau entre lui et ses acteurs, une sorte de cerveau imaginaire comme ça, qui est au-dessus. Un cinéaste qu'on avait reçu dans Ping-Pong. Mais j'arrête pour cette digression. Justement, vous, Pierre Bergoglio, vous citez donc Faulkner. Il est cité nommément, et c'est un dialogue aussi avec l'œuvre de Faulkner, ce livre. Mais où est-ce qu'est la littérature, si ailleurs que justement dans ces citations? C'est-à-dire, ce dialogue avec la littérature, où est-ce que vous le poursuivez ailleurs, sans que ce soit justement dans ces traces évidentes qui sont vos dialogues avec l'histoire littéraire et notamment le récit de guerre?
J'ai été nourri de tout ce qui a pu s'écrire depuis que... Ça fait à peu près 3000 ans. Qu'il s'est trouvé des hommes pour s'appliquer à dire simplement ce qui s'est passé. Bon, le père fondateur, c'est Homer, c'est un grec, ça remonte au 9e siècle, et il semblerait qu'il y ait lieu d'attribuer la perfection du récit qui nous a légué au fait qu'il était le premier à disposer de l'alphabet, c'est-à-dire d'une écriture rationnelle. C'est quelque chose de si léger, de si impondérable, qu'on peut concentrer toute son attention sur la chose. Ce que ne peuvent pas ceux qui servent d'idéogrammes, de caractères cunéiformes ou de hiéroglyphes. Ils ont la cervelle, la mémoire encombrée par le poids du médium. Or, le père fondateur de la littérature telle que nous l'entendons et continuons de la pratiquer, c'est un grec de 800 ou 850 avant Jésus-Christ.
Et dans ce roman, B17G.
Il est derrière, Homer est derrière moi. Qu'est-ce donc que l'Odyssée et l'Iliade, si ce n'est une expédition en zone hostile, que faisaient ces tout jeunes hommes cramponnés à leurs armes dans des cylindres d'aluminium, si ce n'est de se rendre dans une zone hostile, au lieu que en place des croiseurs aux joues vermillons, comme dit Homer, c'était des bombardiers Boeing B-17 type G, avec 10 bonshommes à bord, et des taux d'attrition, de perte qui excédaient parfois 50%.
La lune des bombardiers a un ventre de sang jaune et chasse les ombres des rues. La lune des bombardiers déchire la tôle rêche en lambeaux d'or et de nuit. La lune des bombardiers chasse les ombres des rues, chasse les gens dans les caves et trace un chemin de soie sur les vapeurs des nuages. Alerte! Ils grondent tout là-haut. Leurs entrailles sont lourdes du fruit rouge de la mort. Alerte. Alerte. Alerte.
Les bombardiers sur les ondes de France Culture, vous écoutez Ping Pong. Ces bombardiers-ci sont aperçus du dessous. Ils sont dits par Magali Noël, d'après un texte de Boris Vian. En revanche, dans votre B-17G, Pierre Bergougnou, on est bien à l'intérieur de ces forteresses volantes et étincelantes, dans l'hiver technologique, le froid et le bruit de la carlingue et des moteurs et des mitrailleuses de l'avion, avec ces jeunes, ce jeune équipage qui ne réalise pas ce qui se passe dessous, chez les nains, chez les gnomes, qui n'aperçoivent même pas seulement quand ils se font tirer dessus par la DCA. On est vraiment dans une autre perspective. Le combat aérien, écrivez-vous, n'exige pas une livre de chair, Shakespeare encore lui, mais le corps tout entier. Est-ce que il en va de même pour la littérature ? Est-ce que vous nous diriez un mot de l'état physique dans lequel la lettre vous met quand vous écrivez ?
C'est une grande peine. J'ai entendu des écrivains dire qu'ils prenaient un vif plaisir à noircir du papier. J'ai toujours perçu le travail de plume comme une souffrance, comme un travail. Je vais faire un peu le prof, pas longtemps.
Vous l'avez fait très bien pendant de longues années.
le mot travail vient du latin tripalium, c'est-à-dire trois pieux, qui était un instrument de torture sur lequel des esclaves récalcitrants étaient désarticulés. Je trouve significatif que nous ayons repris ce terme au lieu du labor qu'ils utilisaient habituellement. Écrire, c'est un travail, c'est une peine. Nous supposons qu'au-delà de l'image qui nous vient immédiatement à l'esprit, qui n'est certainement pas la bonne, se trouve une version meilleure, préférable, plus approchée, et qui naturellement se tient en retrait, dans l'ombre, il faut aller la chercher, heureux lorsqu'elle est là, et que ça n'est pas un fantôme que nous avons pris pour cette image ou cette idée-là. Oui, non, pour moi, c'est une peine. D'un autre côté, si le texte véritable de nos vies nous était immédiatement, spontanément accordé, il n'y aurait pas de littérature.
Pierre Bergougnou, justement, est-ce que ça ne nous aide pas à la fois ce 2066 de Roberto Bolaño monté par le petit Julien Gosselin dans le cadre du Festival d'automne et votre roman B17G, est-ce que ça ne nous aide pas justement un petit peu à nettoyer la surface de la proposition artistique. On a l'impression que justement, par rapport au labeur, au travail de je sais pas, des 500 romans qui sortent dans une rentrée littéraire, de l'opulence de spectacles ou de récits cinématographiques qui sont proposés, vous travaillez quelque part à nettoyer la table, à essayer de garder ce qui aujourd'hui peut éventuellement faire art ou pas.
Non, je ne crois pas. Demain, dans 20 ans, dans 30 ans, nous saurons quels étaient les textes de ce temps, qui est le nôtre, et qui donc nous oppose le visage énigmatique du présent. La vérité est du soir, elle est d'après. Chacun d'entre nous, enfin, je suppose, a quelques hantises ou quelques centres puissants, durables, d'intérêt vers lesquels il se tourne. Il faut avoir senti les choses, les éprouver avec une certaine intensité pour leur donner ce temps pénible, disais-je, qu'on passe à l'écritoire avec l'espoir d'y voir enfin plus clair et de se sentir quitte. Si vous préférez, nos vies sont encombrées de choses douloureuses à proportion de ce qu'elles sont mystérieuses. Et c'est un bien que de pouvoir les voir apparaître dans toute la clarté dont elles sont susceptibles ou à l'intérieur de laquelle nous pouvons les faire entrer.
Ping-pong. C'est déjà fini et il est bon de ne pas savoir.
Merci beaucoup Julien Gosselin et Pierre Bergouignou. Julien Gosselin, donc 2666, votre spectacle d'après l'œuvre de Roberto Bolaño. C'est au Théâtre de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 16 octobre. Quant à vous, Pierre Bergouignou, on a donc parlé ce soir de la réédition de B17G. Ce sera le 21 octobre aux éditions Argol avec Pierre Michon qui a voulu prolonger la vie de Smith, le héros, si je puis dire, de votre récit. Mais pour ce qui est de vos joies et de vos hantises, on peut aussi se reporter à vos carnets de notes édités chez Verdier. Le quatrième volume nous parle du basculement qu'il y a aujourd'hui et de la fin du monde en avançant, comme vous le dites dans B17G. Et puis votre esthétique du machinisme agricole, c'est chez Gallimard.
Je signale que sur France Culture, Roberto Bolaño sera à l'honneur puisque des fictions seront créées spécialement autour de lui. Ce sera le 18 septembre et le 25 septembre. Et puis la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange s'intéresse à Roberto Bolaño du 19 au 22 septembre. Je donne cette citation de Bolaño. J'ai rêvé que je traduisais le Marquis de Sade à coups de hache. J'étais devenu fou et je vivais dans une forêt.
Ping-pong, c'est tout un travail d'équipe mené par une clique de servants, de mitrailleurs, de pilotes et j'en passe et des meilleurs. Quant à demain, eh bien, nous recevrons Juan Diaz-Canales, scénariste et dessinateur, qui nous compte les vieux messieurs sacrifiés de l'Espagne en crise, et avec le romancier Luc Lang pour À l'aube du septième jour.